Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous retrouver dans Radio Foot International sur RFI et comme chaque jour pour évoquer la planète football. Et pour commencer, une CAN 2023 qui rime avec Côte d'Ivoire. Les autorités d'Abidjan ont accepté le glissement proposé par la CAF après l'entrevue entre les présidents Ouattara et Hamad. Mais les recours contre la CAF et ses décisions auprès du TAS se multiplient. Nous évoquerons aussi cette légende du football africain disparue au cours du week-end et nous évoquerons aussi sa vie difficile. Le léopard Mutumba Pierre Ndiaye Mulamba n'est plus. Karim Benzema, le merengue en grande forme, il se réinvente pour sa 10e saison au Real Madrid, la première sans Cristiano Ronaldo à ses côtés. Et il est devenu le moteur d'une attaque qui retrouve ses marques. À l'approche, tiens, des matchs éliminatoires de Ligue des Champions, le club madrilène, on en a l'habitude, semble être au point à ce moment de la saison. L'est-il vraiment ? Et puis l'OM à huis clos suite aux graves incidents enregistrés au Vélodrome en fin de semaine. L'équipe phocéenne jouera sans public à huis clos durant au moins un match. Le public réputé comme le meilleur de France l'est-il vraiment ? Et nous évoquerons aussi Neymar et ses problèmes de santé. Bonjour Bruno Salomon.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Il y a un vice de forme ?
Oui, un vice de forme et des galères qui continuent. C'est un cauchemar pour le Paris Saint-Germain, puisque 2 mois minimum d'absence pour la star.
Ah là là, vraiment, il faudrait appeler des marabouts hein, du côté du Paris Saint-Germain, ça ferait peut-être du bien. Alors, notre ami Bruno Salomon est à côté de Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Du site Foot Africa 365 et puis Gilles Verdez est là aussi. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Le réfé, Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Avant de commencer cette émission, un salut à deux auditeurs très fidèles qui se trouve à Gao, au nord du Mali, Eladji Mamadou Ba et son ami Saini Karabenta qui nous écrivent régulièrement ici à Radio Foot. Merci de nous suivre. Radio Foot, c'est parti. La CAN 2023 aura donc lieu en Côte d'Ivoire, c'est enfin officiel. La compétition africaine aura bien lieu au pays des éléphants, comme le voulait la CAF ce matin. Le président Ouattara recevait à Abidjan le président Hamad et la demande donc de glissement. Hein. Ce terme inventé fin novembre à la suite du retrait de la CAN au Cameroun, eh bien, elle aura donc lieu à Abidjan et dans le pays de la Côte d'Ivoire. La CAN attribuée au Cameroun en 2019 passant en 2021, eh bien, celle qui avait été attribuée à la Côte d'Ivoire en 2021 est donc passée à 2023. Et on le sait déjà, celle de Guinée aura lieu en 2025. Ça avait été accepté officiellement par Conakry. La Côte d'Ivoire, donc, où se trouvait le président Hamad, écoutons-le, une brève allocution en sortant de ce rendez-vous présidentiel.
Aujourd'hui, je suis venu ici et je remercie sincèrement le chef de l'État de la Côte d'Ivoire d'avoir pris en compte cet aspect de solidarité que allons soutenir ce glissement pour que 2021, la CAN sera au Cameroun. Ils sont à 80% des réalisations aujourd'hui et la Côte d'Ivoire en 2023 et en 2025, la Guinée sera le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour vous anticiper peut-être, pour éviter de fausses interprétations, c'est la Guinée seule qui décide s'ils vont co-organiser ou ils vont organiser seuls. Mais la CAF est favorable à une co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc ce que je peux vous dire au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, 2021, 2023 et 2025.
Voilà le programme donc des prochaines CAN qui se met peu à peu en place. Patrick Juillard, on imaginait ces dernières heures, vu les tractations qui avaient eu lieu, que la Côte d'Ivoire accepterait finalement d'organiser en 2023, même s'il y a eu beaucoup de réticences. Et surtout, en Côte d'Ivoire, on était un peu froissé par la méthode, c'est-à-dire que Hamad avait annoncé ça sans véritablement consulter les autorités.
Oui, après, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle autorité, puisque c'est surtout la fédération ivoirienne qui avait été froissée. Mais on sait que la fédération ivoirienne est assez isolée en ce moment, puisque d'une part, les clubs sont vent debout contre son action, et d'autre part, les relations entre le pouvoir ministériel et le pouvoir fédéral sont pas au mieux en Côte d'Ivoire. Donc finalement, je suis pas trop étonné que la CAF ait réussi à vaincre ces quelques réticences pour obtenir un accord du gouvernement.
Mais d'une manière élégante, il fallait quand même aller en aviser les autorités.
Oui, oui, évidemment.
On avait reçu ici le ministre des Sports de Côte d'Ivoire, qui sur le coup était surpris, quoi, qu'on annonce ça ailleurs.
Bah, c'est encore, là, on vient encore d'en avoir l'illustration. Hamad est quand même quelqu'un qui a une manière assez particulière de communiquer, puisque il répond jamais là où on l'attend. Là, on écoute une allocution. Donc moi, je m'attendais.
Parce qu'il parle de 2023.
Je la découvrais en même temps que vous. J'imagine. Je m'attendais à ce qu'il sente son discours sur 2023. Et voilà que Hamad parle d'une co-organisation. On sait déjà que le Sénégal est en train de
d'insister
lourdement et de manière, pour le coup, là aussi, pas très diplomatique pour co-organiser, alors qu'ils ont même pas un stade aux normes.
Mais ça
aujourd'hui
serait pour 2025.
Donc, je trouve ça complètement déplacé. Après, évidemment, sur 2023, la Côte d'Ivoire est en retard aujourd'hui, donc ça arrange tout le monde d'accepter un glissement.
Évidemment, hein, Gilles, ça arrange d'une certaine manière. On a plus de temps pour les infrastructures.
Le président Hamad, c'est un sorcier. C'est le nouveau Ayatou. Il va rester autant de temps qu'Ayatou. C'est-à-dire qu'il sait très bien que pour gouverner là-bas, il faut prendre des décisions avant d'obtenir les accords. Sinon, c'est pas possible. Donc, il taille les instances ivoiriennes, mais il ménage le président. Il prend ses décisions. Il voit après comment on fait. Il y a des recours devant le TAS. Il les gagnera tous parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est un politique hors pair. Certains pourraient parler de chaos. Lui, il parle de glissement. C'est de la sémantique quand même de très haut niveau. Franchement, je trouve que... Alors après, on peut dire oui, il devrait, etc. Mais pour faire appliquer des décisions, alors que c'est très compliqué, il n'y a pas les infrastructures, il y a des forfaits, c'est vraiment pas simple, il obtient tout ce qu'il veut, pour le moment, par course sans faute.
Alejandro ?
Oui, c'est vrai. D'un autre côté, moi, devant toutes ces espèces d'annonces et contre-annonces qui se succèdent en Afrique, je suis toujours aussi perplexe par cette obstination à vouloir nous offrir une CAN tous les deux ans à 24 équipes en plein été dans une période qui est quand même problématique pour les clubs, alors que soi-disant on avait déplacé les CAN en été pour épargner les clubs européens. Pour moi, c'est pas tenable. Il faudrait que la CAF réfléchisse sérieusement à une autre périodicité. Je pense qu'une CAN tous les quatre ans serait beaucoup plus pertinente aujourd'hui.
Alejandro, vous nous tendez la perche, alors allons-y sur cette périodicité, parce qu'au cours du week-end, effectivement, on a appris la réorganisation, hein, on peut dire ça, du calendrier de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, celle de 2019, qui se déroulera dans quelques semaines à peine. Finalement, ça ne sera plus le coup d'envoi le 15 juin, mais le 21 juin, du côté de l'Égypte, donc coup d'envoi, et finale non plus le 15, mais le 19 juillet. Alors, sans doute la chaleur sera-t-elle aussi forte, mais on officiellement c'est à cause du Ramadan. Finalement, on regarde le calendrier, le Ramadan se termine début juin. Pourquoi ce décalage? Et surtout, Alejandro Falente y fait allusion. Et Patrick, je vous regarde parce que l'excuse que la CAN ne se déroulait plus pendant l'hiver, c'est que ça gênait les clubs européens essentiellement pendant leur saison. Et là, finalement, ils vont manquer toute la mise en forme, toute la préparation normale d'un club européen, les joueurs.
Bon, ce seront certains. Pas les seuls, puisqu'il y a également cette année une Copa América. Qui va également impacter une partie des joueurs, en l'occurrence les Sud-Américains.
Elle est beaucoup plus courte, la Copa América.
Elle est plus courte.
Il y a 12 équipes.
Après, il n'y a pas de bonne solution. Moi, j'étais pas vraiment favorable au passage en période estivale, pour des raisons climatiques, parce que dans beaucoup d'endroits du continent, il fait très chaud ou très pluvieux, et ça complique les choses dans des pays qui sont déjà pas très gâtés au niveau des infrastructures. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est cet argument du Ramadan, et surtout l'argument selon lequel ce serait pour complaire aux pays du Maghreb. J'ai vu aucune déclaration d'un officiel d'un quelconque pays maghrébin demandant le report de la CAN. Donc je sais pas ce que cache ce décalage d'une semaine, mais à mon avis, cette histoire de Ramadan tient pas vraiment debout.
Gilles.
Excusez-moi, mais vous m'étonnez un tout petit peu dans vos précautions oratoires et sportives pour dire ça n'arrangera pas peut-être les clubs européens. Moi, je dirais que ça m'est égal. Et je suis désolé, pour une fois, je suis pas d'accord avec le chef. C'est très rare, Annie. Mais là, moi, ça m'est égal que ça perturbe éventuellement la préparation des clubs européens. On est à l'heure où, forte du soutien du président de la FIFA, l'Afrique marque son territoire. L'Afrique dit on veut plus de clubs à la nouvelle Coupe du Monde.
Oui, l'Afrique on marque son territoire, zéro qualifié au deuxième tour du dernier mondial.
Oui,
Gilles.
Mais évidemment, mais ça c'est le bilan sportif pour plus tard. Oui, mais pour avoir plus de qualifiés, il faut peut-être avoir plus d'équipes.
Il y a 20 ans, le Nigeria et le Sénégal nous faisaient rêver. Qu'est-ce qui se passe cette année?
Mais vous allez rêver dans quelques années. Grâce à cette redistribution et pour marquer son territoire, il faut dire désolé, on est en Afrique, on fait ce qu'on veut. Alors c'est nos dames, c'est pas les vôtres.
Mais Gilles, quand même, nous étions à l'élection du président Hamad lors de la réunion des instances de la CAF en Éthiopie. Le président de la FIFA était là et on avait l'impression qu'il y avait une espèce d'allégeance justement pour aider la FIFA et aider les clubs européens en faisant glisser les dates de l'hiver à l'été. Et résultat, on a l'impression que ça gênera autant les clubs.
Oui, mais moi, de mon point de vue, l'Afrique est fortifiée. Vous parlez de la FIFA, c'est l'UEFA pour moi, entre guillemets, vous me pardonnez l'expression, l'ennemi de l'Afrique, entre guillemets. C'est l'UEFA, ce sont les clubs. Moi, je dis primauté aux sélections... Ah non, mais j'accepte tout à fait le fait d'être minoritaire. Aux sélections nationales, et pour entretenir les sélections nationales, mais faisons fi des dates.
Mais donc, ils pouvaient rester en...
tenir compte quand même du fait que les joueurs... sont des joueurs professionnels qui sont payés par leur club et à un moment ou à un autre, surtout avec une CAN tous les deux ans, la question de savoir s'ils vont se mettre à dos la confiance de leur club pour faire plaisir aux fédérations africaines va se poser pour beaucoup d'entre eux.
Bruno Salomon, oui. Vous qui suivez beaucoup la Ligue 1, est-ce que vous pensez que avoir déplacé la compétition et donc peut-être déplacé le problème, peut-être que c'est pire de ne pas être là pendant la saison que pendant la mise en forme.
Bah, on se rappelle sur la partie de l'hiver avec les coachs qui à chaque fois te tombaient dessus en disant non, c'est pas possible, on s'en sort pas.
Alors des fois ils revenaient meilleurs, hein, on se souvient de Aubameyang par exemple à Saint-Etienne.
On est d'accord, mais il n'y a qu'une chose à Nice, je me fais une réflexion depuis tout à l'heure, je vais quand même vous la glisser. Ça fait 10 ans que je participe à Radio Foot International et ça fait 10 ans que c'est un immense merdier pour la CAN et chaque fois on en parle. Non mais c'est extraordinaire, que ça soit pour les stades, que ça soit pour l'organisation, à chaque fois on revient sur la même problématique. On a l'impression que
ça tâtonne
et qu'on n'a toujours pas pris les bonnes décisions pour la CAN, du côté de la CAN. C'est mon ressenti là de, on va dire, du côté UEFA, hein, parce que moi c'est vrai que je suis très UEFA-esque, on va dire, personne n'est parfait dans mon football, mais ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans que j'entends cette émission et à chaque fois j'entends la même chose. Je me dis qu'à un moment donné, les instances africaines auraient tout à gagner quand même à se poser une bonne fois pour toutes et arrêter. Parce que là, je voudrais juste vous dire, j'ai voulu me renseigner, j'ai voulu aller sur les sites internet. Je vous jure que c'est vrai, j'arrivais plus à comprendre si c'était la Guinée, la Côte d'Ivoire ou si c'était aller sur Wikipédia. C'est encore la Guinée qui est sur la page Wikipédia de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est 2023. Enfin, c'est un bazar sans nom. Il y a un moment donné, il faut aussi être sérieux. Si tu veux être pris au sérieux, il faut être sérieux de ton côté.
Alejandro.
Bah, disons que pour aller dans le sens de Patrick, je me dis que ces changements de période de la CAN coïncident avec un moment où en Europe, l'idée d'aller vers une pause au mois de janvier gagne du terrain. Je sors d'un déjeuner avec Bernard Cayasso, donc qui est une des figures de club français qui propose Saint-Etienne. Un Boxing Day à la française et suivi d'une période des vacances et d'un arrêt du championnat de France jusqu'au début du mois de février. C'est un peu l'Italie a adopté un format de ce type. L'Allemagne fait une longue trêve hivernale. Donc
et même l'Angleterre maintenant.
Et d'autres pays.
Oui. L'Angleterre
va le faire aussi. Donc peut-être que l'hiver, ce n'était pas une si mauvaise période dans la nouvelle configuration.
Une Coupe du Monde en hiver. Ça va se passer.
Pour moi, il y a un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, tous les organisateurs de compétitions, que ce soit pour les compétitions de club ou les compétitions d'équipe nationale, ils veulent faire grossir la poule aux œufs d'or, élargir les tournois, agrandir le nombre d'équipes participantes. On parle le dernier délire, c'est le mondial des clubs à 24 clubs. Bon, bientôt...
4 ans.
Mais c'est absurde. Et à la fin, au final, dernière analyse, les années ne dureront jamais toutes que 365 jours ou 366 une fois tous les 4 ans.
Et 12 mois.
Donc à un moment, les joueurs, c'est des êtres humains, c'est pas des robots. Et donc tout ça, ça fait du mal au football. Il faut aller vers du slow foot et là, les instances font tout le contraire.
Gilles, alors, je vous demande votre avis puisque vous avez l'air assez catégorique sur les réclamations auprès du TAS des Africains. On en a au moins deux en lice. Alors d'abord, on a celle l'association des clubs de foot amateurs du Cameroun qui réclame devant le tribunal arbitral du sport et conteste le retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun en 2019. Bon alors ça, j'imagine que on est déjà passé à autre chose et il risque de ne pas gagner. Mais il y en a une autre qui est assez intéressante. C'est les Comores qui ont déposé aujourd'hui même leur recours pour demander que soit respecté le règlement, à leur sens, l'article 92, où le Cameroun, automatiquement, ne devrait pas disputer la prochaine CAN puisqu'il a été dessaisi. On lui a retiré l'organisation de la compétition de 2019. Et on se souvient de l'exemple précédent, c'était le Maroc qui, lui, s'était mis en retrait et n'avait pas participé à la CAN.
Bon, alors, j'ai pas lu tout l'argumentaire. Alors, le TAS, juste sur des aspects purement juridictionnels, je suis d'accord. Mais je n'ose pas imaginer que la politique n'interfère pas. Alors, vous allez me dire si les...
Bah, le TAS, théoriquement, il n'y a pas de politique.
Absolument. C'est pour ça que je dis que nos auditeurs membres du TAS, là, vont bondir en m'écoutant. Mais je l'assume. Je n'ose pas imaginer qu'ils retoquent des décisions présidentielles quasiment panafricaines. C'est-à-dire qu'à un moment, sur l'aspect juridictionnel pur, se heurtera l'opposition politique. J'en suis persuadé.
Mais alors, il n'y a pas de règles.
Non, mais quand j'aurai été débouté par le TAS, je reviendrai humblement vous dire.
Mais c'est pas possible.
Ce n'est pas possible.
Gilles, ce qui est particulier dans l'histoire, c'est que finalement, les Comores demandent à la CAF d'être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que la CAF
l'application du règlement.
A décidé par égard pour le Cameroun, par souci de ne pas enfoncer davantage le Cameroun, qui était déjà privé d'une organisation. La CAF a décidé de ne pas appliquer son propre règlement. Mais sur le plan strictement juridique, les Comores sont tout à fait fondés à réclamer l'application stricte du règlement. Maintenant, est-ce que le TAS ne va pas se dire une instance peut décider de ne pas elle-même appliquer son règlement? Elle est souveraine. Donc c'est une question vraiment délicate à trancher.
Le problème, c'est que les règlements ne sont pas très clairs. Parce que le règlement sur lequel s'appuient les Comores, c'est celui de la CAN 2017. Puisque le règlement de la CAN 2019, sauf surprise, n'a pas encore été publié. Donc,
oui, mais pour les éliminatoires, donc Alejandro vaut celui qui était en vigueur.
Merci chef, le chef m'a sauvé là.
Ah, je vois une alliance se dessiner.
Ça, enfin, c'est pour avoir dit tout à l'heure que tu étais toujours d'accord avec lui.
Je pense qu'il y a un certain flou quand même.
Alors après, il faut quand même dire une chose, c'est que même si le TAS déboutait les Comores, les Sélacantes peuvent toujours se qualifier sur le terrain s'ils vont battre le Cameroun à Yaoundé, ce qu'aucune équipe a fait depuis une trentaine d'années, mais pourquoi pas, il faut un début à tout.
Après, vous aurez les raisons du fait que des pays soient dessaisis d'organisation. Et ça, la Confédération africaine peut s'appuyer dessus en disant il n'y avait pas la possibilité, donc nous avons été obligés. C'est pour ça que le fait que le TAS, à mon avis, donne satisfaction aux Comores, c'est de l'impossibilité absolue.
En tout cas, l'article 92, je le rappelle, dit que si une nation se désiste ou se fait retirer l'organisation de la compétition, il y a une amende et suspension à la prochaine édition de la CAN, si c'est notifié moins d'un an, de son équipe nationale A.
Voilà.
Sans tenir compte de l'édition concernée.
En tout cas, comme la CAF fait preuve d'imagination dans tous ces domaines, je vais lui suggérer une possible porte de sortie, faire que la CAN 2019 se joue à 25.
Voilà, vous avez compliqué le problème des Égyptiens. Pour terminer ce chapitre africain, attachons-nous à un personnage qui a de ce football africain une légende et qui a disparu au cours du week-end, un léopard qui a emporté d'ailleurs avec lui son record. Le Congolais ou le Zaïrois Pierre Ndiaye Moulamba était et reste le meilleur buteur d'une Coupe d'Afrique des Nations.
Et puis Kakoko, Kidumu, Kipongé, et sans doute tir de Kipongé, non. Coup en finesse. Égalisation donc par le Zaïre, par Ndiaye. Ndiaye qui marque donc son sixième but dans ce tournoi. Alors qu'il reste à peu près 2 minutes à jouer. 3 joueurs sont là pour tirer ce coup franc. Le mur zaïrois se forme. Et but. But pour le Zaïre. But, je pense, de... Ndiaye. Sur la touche, les joueurs zaïrois se précipitent sur Ndiaye. Ah, vraiment, je n'y croyais plus.
Alors Ndaye, c'est Pierre Ndaye Moulamba qui avait inscrit ce doublé, mais alors c'était une finale de la CAN 74 entre le Zaïre et la Zambie. C'était 2-0 et ça avait terminé sur 2-2. Résultat, eh bien selon le règlement, Gilles Verdez, eh bien il avait fallu rejouer ce match. Et là, le Zaïre l'avait remporté sur le score de 2-0. C'était donc les couleurs zaïroises qui ont rendu cet homme du Kasaï central très célèbre. Il avait inscrit un total de 9 buts. C'était donc un record. Il était passé par le V-Club de Kinshasa. Il avait aussi participé, Patrick Juillard, à cette terrible Coupe du Monde. Je dis terrible parce que les circonstances étaient compliquées pour cette équipe en Allemagne 74.
Et en particulier pour lui, puisque rappelons quand même que les Léopards du Zaïre furent et seront donc à jamais les premiers d'Afrique subsaharienne à avoir représenté le continent en Coupe du Monde. Et puis pour Ndaye Moulamba, cette Coupe du Monde avait été terrible puisqu'il avait été expulsé par erreur à la place d'un coéquipier qui lui avait fait une faute. Il avait participé au terrible match où le Zaïre s'était fait surclassé 9-0 par la Yougoslavie, à l'époque une grande équipe, pour des histoires de primes, il y avait grève des joueurs, c'était terrible. Et je recommande, je vais pas être très long là-dessus, je sais qu'il a une fin tragique qui a été très bien racontée sur le site internet de RFI par David Kalfa dans un papier vraiment superbe, que
très beau portrait,
que j'encourage à tout le monde à lire. Et je recommande aussi, si les gens peuvent le trouver, un très beau documentaire qui avait été tourné par une journaliste congolaise, Monique Pekka, qui s'appelle De la coupe à l'élection, et elle avait retrouvé une trentaine d'années après tous les héros de cette épopée des Léopards à Kinshasa, et c'était très touchant de les revoir souvent dans des vies assez difficiles, à l'image de celle de Ndaye Moulamba.
Et je rajouterais cette touchante aussi biographie signée Claire Reynaud. Le titre de cette biographie de ce grand joueur s'appelle La mort m'attendra. Gilles Verdez.
C'est vrai qu'il faisait partie de cette équipe, alors on en parlait de la Coupe du Monde 74, traité en héros avant l'édition, couverte de cadeaux par Mobutu, des voitures, des maisons, et puis après traité en zéro, humilié, lui dans sa chair, puisqu'il y a eu des drames, et ces gens-là sont passés, on va à la Coupe du Monde, c'est magnifique, à la déroute contre la Yougoslavie, il joue contre le Brésil, il y a même un défenseur, tout le monde se souvient de ces images, il y a un défenseur de l'équipe, alors que les Brésiliens s'apprêtent à tirer un coup franc, qui fonce sur le ballon et qui dégage en tribune. Il y avait 2-0 pour le Brésil à ce moment-là, parce que il s'est dit, je vais faire n'importe quoi. On va dire qu'il y a eu plein d'articles après qui disaient les Aérois ne connaissent pas les règles du football. Mais lui, il avait fait ça pour dégager dans les tribunes, gagner du temps et que la déroute soit moins forte. Il s'était dit au moins, on va peut-être éviter un but sur coup franc. Je vais faire n'importe quoi. Et ces gens-là, après, c'est vrai, ont été humiliés, brisés par le dictateur Mobutu. Et ça a été plus qu'une disgrâce, une succession de drames personnels terribles.
D'ailleurs, il est mort en Afrique du Sud et il avait dû s'exiler, notamment en 94 où la CAF avait décidé de l'honorer, Issa Yatou alors, et il lui avait offert une médaille et on avait voulu que lui transmette cette médaille à Mobutu, ce qu'il avait refusé de faire. Résultat, sa femme, ses enfants, lui-même avaient été tabassés, torturés, un de ses enfants était décédé, et il était parti tenter de vivre en Afrique du Sud, et il avait dit d'ailleurs, ma vie n'a pas toujours été facile, le football m'a apporté autant de joie que de peine. Voilà, hommage donc à ce grand joueur Mutumbula, aussi surnommé ainsi, Mutumbula du Kasaï central, et qui conserve ce record.
À pas confondre d'ailleurs avec Santos Mutumbula, hein, qui est pas le même joueur, mais qui est à peu près de la même époque,
non,
effectivement.
C'était de celui-là en tout cas, dont nous parlions aujourd'hui dans Radio Foot.
Atención a la llegada de Luka Modric, con peligro se va Luka Modric, solo, el paradón y el gol de Karim Benzema, le dejaron el pasillo abierto, miren a quién, a Luka Modric, como para no aprovechar el regalo, se fue hasta la cocina españolista, golpeó la pelota con crudeza, para buscar a Vinicius dentro del área, le queda Benzema,
¡Golazo!
Karim Benzema.
Golasos, grand but de Karim Benzema, le français de l'équipe madrilène et le meilleur buteur de ce Real Madrid, orphelin de Cristiano Ronaldo, dans sa 10e saison chez les Merengues. Et pour la première fois donc sans CR7 à ses côtés, eh bien, la lumière semble enfin tomber sur ce joueur de 31 ans qui multiplie les buts, les passes décisives, au point, que certains de ses camarades de jeu estiment qu'il réalise sa meilleure saison chez les Merengues. Et écoutons la déclaration enflammée de l'entraîneur Santiago Solari.
Benzema a une longue carrière avec beaucoup de temps fort. De toute évidence, il est en grande forme en ce moment et réalise une grande année. J'ai toujours dit qu'il était un joueur généreux car il crée des espaces pour ses coéquipiers et les rend meilleurs. Il est très généreux dans ses efforts. Il a joué la grande majorité des matchs cette saison et joue même actuellement avec une douleur suite à sa fracture de la phalange. Lorsque vous jouez pendant la récupération, vous jouez avec une douleur et il le fait. Il est donc très généreux dans tous les sens du terme. Je considère que c'est l'un des meilleurs numéro 9 du moment.
Ici, considère que Benzema est uno de los mejores centrodelanteros del mundo en este momento.
Bruno Salomon, un héros en plus. Benzema, il joue en ayant mal. Faudrait que vous le disiez à Neymar.
Oui, il y en a un, c'est une main et l'autre, c'est un pied.
Oui, mais on le voit avec son bandage.
Il n'est pas gardien de but, Neymar. C'est vrai qu'en plus, il a décidé, Benzema, que l'opération, il la ferait plus tard.
Quand il s'est cassé le petit doigt, on s'était dit, oh là là, déjà que ça va mal pour le Real en plus. Et non, Benzema, au mépris des douleurs ressenties.
Mais comme quoi,
c'est Gareth Bale qui devrait.
Quand les grands attaquants que recherche l'Olympique de Marseille s'en vont, ça fait de la place pour les autres et c'est bien aussi de voir que Karim Benzema prend ses responsabilités dans ce Real Madrid qui était à la dérive quand même et qui retrouve quelques couleurs, bien sûr, comme par hasard au mois de janvier. Tu commences à, je pense pas que ça ira très loin quand même sur cette saison, mais voilà, il retrouve en tout cas je suis pas persuadé. Après voilà, c'est un avis perso, mais en tout cas. Il a pris ses responsabilités, il prend ses responsabilités. Dans le Café des Sports, on parlait de Sergio Ramos, qui était devenu encore un peu plus le taulier de cette équipe.
Il a marqué d'ailleurs.
Du Real. Benzema, à côté du
9
petit...
9 buts pour Benzema, 5 pour
Vinicius,
Ramos.
Il s'éclate. Et c'est bien.
Alejandro Valente, vous trouvez même que là, on dit c'est un super numéro 9, il est même peut-être plus numéro 9.
Je pense qu'on a souvent, quand on veut décrier Benzema à Madrid, on le compare à Cristiano Ronaldo, on dit c'est pas la même chose. Mais pour moi, c'est plutôt l'anti-Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo était un peu Superman, l'homme qui tout seul pouvait sauver le Real dans les situations difficiles. Lui, c'est les coéquipiers idéaux. C'est un joueur collectif qui joue avec les autres, qui joue aussi beaucoup pour les autres. Il s'est trouvé un nouveau compagnon de jeu qui s'appelle Vinicius, justement. Ils s'entendent fort bien. Et il faut aussi souligner que Benzema marque beaucoup, mais qu'il pourrait marquer beaucoup plus si, par exemple, il tirait les pénaltys, ce qu'il ne fait pas, puisqu'il laisse ce
Sergio
choix
Ramos.
Maintenant à Sergio Ramos, avant à Cristiano. S'il tirait les pénaltys, il pourrait être parmi les tout meilleurs buteurs européens du moment. Il dépassait même Cristiano Ronaldo aujourd'hui à la Juventus.
Gilles,
c'est un tour de force quand même, parce qu'on disait Benzema est bon aux côtés de Ronaldo. Cette figure tutélaire, une fois qu'il en sera entre guillemets débarrassé, est-ce qu'il va pas s'effondrer? On disait Benzema est bon quand il a un concurrent. Au Real, tous les ans, il y a eu un concurrent et il les a éliminés, expulsés les uns après les autres. Là, il a quasiment pas de concurrent parce que c'est un des entre guillemets tauliers. Cristiano Ronaldo n'est plus là et c'est lui qui tient le club. Donc c'est une nouvelle carrière.
C'est surprenant peut-être, non?
Très
quand même,
surprenant.
Gilles.
Alors d'autant plus que en dehors du terrain, c'est toujours aussi compliqué. Il y a toujours des affaires extra-sportives, mais ça, il y en aura toujours avec lui. Mais sur le terrain, ça devient un des patrons, franchement, du Real. Donc c'est très impressionnant. On n'en visera jamais un retour en équipe de France, mais c'est peut-être effectivement, je suis d'accord, la meilleure saison de Benzema au Real.
Patrick, on a l'impression qu'il se réinvente en fait, un peu surtout autant sur son jeu sur le terrain que son rôle dans un effectif où il a mis du temps en début de saison, mais un peu comme tout le monde, ça c'était mal parti.
Là, j'ai eu l'impression parfois, certains vont pousser les hauts cris, mais j'ai eu un peu l'impression de voir Zidane. C'est-à-dire que j'ai eu plus l'impression de voir un numéro...
C'est pas des hauts cris,
j'ai plus eu l'impression de voir un numéro 10 qu'un numéro 9, en fait, lorsque j'ai vu les passages
pas
de ce match. Après, c'est assez étonnant quand même. En Espagne, on dirait que des joueurs sont hors des radars du sélectionneur, puisque... Et si on faisait une attaque en équipe de France avec Ben Yedder,
ne revenons pas sur ce dossier.
Benzema et Ben Yedder, ce serait pas forcément plus mauvais que Giroud et Lacazette, par exemple, pour prendre deux joueurs qui jouent en première ligue.
En tout cas, Alejandro Valente, Benzema est rentré dans le top 5. On parlait de Suarez l'autre jour, qui est rentré dans l'histoire du
c'est
Barça.
C'est dans le top 6 plutôt.
Alors. Oui, parce qu'ils sont deux ex aequo. Mais en tout cas, Suarez est à 167 buts, alors évidemment avec moins de saisons. Et là, Benzema a 207 buts sous le maillot du Real en 10 ans.
Oui, c'est le même total que Hugo Sanchez, qui lui ne peut pas l'améliorer, contrairement à Benzema. Donc,
non, c'est un Mexicain à la retraite.
Il va forcément passer devant. Il n'atteindra jamais les chiffres des Cristiano Ronaldo, mais il faut voir aussi les moyennes.
Cristiano est à 450. Hein,
voilà,
je
mais
le
il faut aussi voir les moyennes. Il a une très bonne moyenne de buts, presque un but tous les deux matchs. C'est qu'il le place devant Raúl, par exemple, en termes de moyenne, alors que Raúl est le deuxième meilleur buteur historique du Real Madrid derrière Cristiano.
Gilles, est-ce que ça l'a libéré finalement que Cristiano soit pas là, parce qu'on a toujours vu Cristiano Ronaldo et Benzema ensemble. Cristiano Ronaldo, on dit qu'il aurait même aimé l'attirer à la Juve. Ils sont arrivés en même temps et Benzema a compris, un peu comme Neymar à l'époque quand il est arrivé au Barça, il s'est mis dans l'ombre du grand joueur et finalement là il en sort un peu de cette ombre.
Contrairement à ce que certains pensent, et peut-être que certains vont pousser des hauts cris là aussi, Benzema c'est un joueur très intelligent et très politique. Il savait que pour réussir au Real, il fallait se mettre dans la foulée, dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Et là, il sait que sans un Benzema, sans lui-même marquant des buts, prenant ses responsabilités, il n'y a plus de Real. S'il n'est pas bon, qui va marquer un but ? S'il n'est pas le leader, il ne sera jamais un leader hors terrain, mais sur le terrain, le Real va s'effriter. Donc, il a senti tout ça. Et je suis d'accord avec vous, il s'est réinventé. Il a fait sa mue, Benzema.
Bruno, vous disiez tout à l'heure, il commence à aller mieux au mois de janvier, on a l'habitude, janvier-février, les matchs éliminatoires de la Ligue des Champions, leur compétition fétiche et qui arrive. Mais on a l'impression aussi que Santiago Solari a peut-être trouvé une clé dans tout ça. C'était difficile son arrivée en remplaçant Lopetegui. Il a appelé notamment ce Vinicius dont on parlait, jeune brésilien, 18 ans, il arrive de Flamengo, il est passé par la Castilla, lui en était responsable. On a l'impression qu'il a réussi pour l'instant, alors pas d'un niveau éclatant, mais l'alliage entre les cadres, hein, Modric, Ramos, Benzema, et puis ces jeunes qui poussent.
Mais même si on va dire que prendre son temps au Real, on ne sait pas tout le temps le faire, là, pour une fois, on lui a laissé un petit peu de temps. C'est 6 mois, c'est 8 mois, mais quand tu vois le chantier entre l'histoire avec Lopetegui, il arrive derrière, il a un vestiaire qui est aux abois, Papa Zidane est parti, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, il a fallu tout réinventer, il a fallu faire de la calinothérapie, il a fallu dire à Sergio Ramos.
Oui, parce que les joueurs étaient orphelins de Cristiano et Zidane en même temps.
Hein. Et Zidane. Donc, effectivement, on lui a laissé le temps, il y a eu des résultats qui étaient quand même pas terribles, ils ont goûté au goût amer de la défaite face à plus petit, il y a eu des moments qui étaient un petit peu compliqués, donc voilà, on l'a laissé le temps, et là les joueurs sont en train de lui rendre le travail qu'il a fait. Quand je dis que je crois pas au Real pour une victoire finale et pour nous en coller une quatrième sur la table à la suite, je vois pas le truc.
Voilà.
Mais en tout cas, ce sera compliqué, et quand on voit Benzema qui réussit, celui qui me dit qu'en août, septembre, il voyait Benzema briller à Madrid, enfin, c'est faux. Enfin, j'en ai pas entendu un. On pensait tous que c'était la fin d'un cycle, c'était la fin d'un règne, que ça n'allait pas prendre.
Ça l'est toujours quand même.
Oui, voilà. C'est-à-dire que là, moi, je trouve effectivement ce que dit Bruno est juste. On a laissé du temps à Solari et maintenant.
Peut-être faute de choix.
Il y a aussi le fait que, par exemple, un joueur comme Modric a digéré l'avant Ballon d'Or et le Ballon d'Or, et maintenant il écrit une nouvelle page et on le voit, il joue mieux depuis quelques semaines. Alors que sur les premiers mois de la saison, il était vraiment en dedans. Après, moi, j'ai pas une confiance extrême dans ce Real-là. Pour moi, l'effectif est trop court et il y a pas mal de joueurs aussi dans l'impasse. Il y a des joueurs comme Isco, par exemple, qui sont toujours plus un problème qu'une solution, alors que c'est un joueur qui est merveilleux quand il est en forme. Donc, bref, il y a encore des hypothèques sur l'avenir du Real.
Alejandro ?
Mais bon, en tout cas, les travaux de Solari a eu un mérite, c'est qu'il a permis de ramener un peu de tranquillité, alors qu'il y avait un climat assez fiévreux il y a quelques semaines, et on s'attendait à qu'il s'achète n'importe quoi au mercato pour essayer de combler le vide. Donc le Real a su résister à ça. Après, il y a des problèmes que Solari n'est pas encore en mesure de résoudre, et notamment le problème défensif. C'est vrai que le Real recommence à marquer, mais ils prennent toujours beaucoup beaucoup de buts. Et ça, ça risque de poser problème lorsque les échéances plus compliquées vont arriver, que ce soit en championnat, il y a l'Atlético dans une dizaine de jours, ou en Ligue des Champions.
Et Varane exclu au dernier match.
Attention, parce que la primauté nationale en Espagne, c'est quand même ce qui compte. Le Real a masqué ses faiblesses nationales en Liga en remportant des Ligues des Champions, ce qui est extraordinaire. Mais le duel avec Barcelone, maintenant l'Atlético Madrid, les clubs de Séville, Valence peut-être, en Espagne, c'est ça qui compte vraiment. Et là, le Real est complètement largué en championnat quand même.
Toujours.
Donc, je pense que 6 défaites. Donc, je pense quand même qu'il y aura un examen final pour savoir si l'entraîneur reste ou si le chamboultou menace aussi l'entraîneur en fin de saison. C'est pas gagné. C'est pas gagné pour Solari.
Non. En tout cas, ils sont quand même sur le podium. Hein. Et par exemple, on avait vu à un moment, ils étaient entre les deux Séville. Hein. Bon, oui. Les autres sont en train de décrocher. Et finalement, la logique revient dans ce classement puisque Barça, Atlético, Real, c'est à peu près la bagarre à laquelle on assiste chaque année.
Et il arrête le match, monsieur Delerue.
Ah, carrément.
À cause de ce pétard qui. Parce qu'il était près de l'arbitre assistant, hein, le pétard également. Près d'Amami, près de Strootman.
Il m'a fait signe de rentrer au vestiaire, je ne sais pas.
Mais je crois qu'il a demandé aux deux équipes de rentrer au vestiaire,
me semble. Rudy, il nous a dit de rentrer au vestiaire ou pas? Monsieur le délégué, on fait quoi?
On va rentrer et on ressort, on reprend le jeu.
D'accord?
On rentre au vestiaire, on reprend le jeu. Allez.
On arrête le jeu, tout le monde entre vestiaire, les deux équipes entre vestiaire, et ensuite on fait une réunion effectivement de prise de décision avec l'arbitre, avec le responsable de la sécurité civile bien sûr, plus le patron de la sécurité du stade. Voilà. Alors nous allons effectivement dans 5 minutes reprendre, appeler les joueurs, ils vont rentrer évidemment sur le terrain, ils vont s'échauffer et nous allons reprendre la partie au moment où elle s'est arrêtée sur ces incidents, c'est-à-dire à la 57e, voilà. Et si d'aventure il y avait un autre jet sur les pelouses, à côté des acteurs, nous arrêterons définitivement la rentrée.
Évidemment, de ne jeter aucun projectile sur la pelouse, sinon le match serait arrêté définitivement. Merci pour votre compréhension. Donc, la rencontre va reprendre.
Alors vous venez de l'entendre, le stade du Vélodrome de Marseille était en ébullition, c'était le match entre Marseille et Lille, et cet incident autour du stade a duré 35 minutes d'arrêt et de jeu, en plus de tous les incidents qui s'étaient produits dans les tribunes. Les supporters sont en colère depuis quelque temps, on les avait vus aller à la rencontre à un moment des joueurs, et notamment du gardien de but Mandanda, et puis là, il y a eu ce pétard tombé près de deux joueurs, et notamment de Jordan Amavi. Les joueurs en veulent-ils vraiment à leur public qui sait si bien leur manifester sa colère? Écoutons bien ce que dit Jordan Amavi.
Je lance sur le dos et après le pétard tombe et il explose, quoi. Et après l'arbitre a décidé d'arrêter le match, je lui ai dit de continuer mais il n'était pas d'accord. Donc, voilà. Si j'en veux aux supporters, c'est qui râle, qui nous crache dessus parce qu'on n'est pas bon, d'accord, c'est une chose. Mais après de recevoir ça, c'en est une autre. Donc c'est dommage.
Alors, ce qui est dommage, c'est que les prochains matchs de Marseille au Vélodrome seront à huis clos. On ne sait pas combien, en tout cas le prochain contre Bordeaux. Et ça durera peut-être, en tout cas, le temps de l'instruction auprès des instances de la Ligue de football. Mais Bruno, ce public qui est connu pour être un des meilleurs de France, le plus fidèle, le plus fou aussi, hein, les fadas de Marseille, on les avait vus l'année dernière s'enthousiasmer pour cette équipe qui était allée jusqu'à la finale de la Ligue Europa. Et là, au moment où peut-être il faudrait être derrière une équipe qui est à la peine depuis le début du championnat, c'est le divorce.
Après, c'est la problématique de ces clubs de foot qui laissent une partie des clés de leur club aux supporters. Le PSG l'a vécu, le PSG a dû faire le ménage. Il n'y a pas eu de drame encore à Marseille, bien heureusement, mais quand on balance un pétard sur... Alors ça vient pas des ultras, je tiens à dire, ça vient de la tribune Ganet.
Oui, c'est pour ça que tout sera fermé.
C'est pour ça que tout est fermé. Mais c'est la vraie problématique de ces clubs qui tentent de remettre la main aussi sur leurs supporters. C'est ce qu'a tenté de faire Jean-Marc Ayrault, le président. Jacques-Henri, pardon.
Voilà, autre personnage, mais du côté de Nantes.
Ouais, c'est ça. Jacques-Henri Ayrault, et Ça marche pas parce qu'à un moment donné, quand on essaie de remettre la main sur les abonnements, quand on essaie, voilà, on crée les tensions.
Donc
les
la rébellion, elle va au-delà des résultats sportifs.
Bien sûr, Annie.
Ah oui.
Bien
moi, sûr, alors Annie. Pour aller dans le sens de ce que dit Bruno, pour moi, la situation du duo dirigeant de l'OM, c'est-à-dire en fait du sportif et de la structure du club, c'est-à-dire Héro Garcia, ils sont face à une fronde un peu comparable à celle des Gilets jaunes. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, maintenant, la cote d'alerte est atteinte et les gens n'arrêteront d'être dans la défiance que lorsqu'il y aura la démission du duo. Et donc la saison de l'OM est pourrie maintenant. C'est-à-dire que c'est structurel. Et en plus, Héro a aggravé cela lors du début de son mandat en ayant une attitude assez fermée envers les supporters. Mmh. Alors c'est bien sur le fond qu'un club veuille récupérer la main sur les tribunes, je critique pas
mais
ça,
sur l'argent,
mais,
bien sûr.
Mais il y a 35 ans d'héritage de Bernard Tapie derrière, donc c'est quand même pas évident. Et secondement, l'attitude quand même du président, c'est-à-dire de toujours placer la barre très haut et d'être toujours dans des objectifs un petit peu, parfois un peu arrogant par rapport au niveau réel du club, bah ça se retourne contre lui quand les résultats sont mauvais. Hein.
Bruno.
Je vous ramène juste en 2007-2009 avec le Paris Saint-Germain, vous mettez Paul Le Guen, vous mettez Rudy Garcia, vous mettez Jean-Marc Ayrault, vous mettez Robin Leproux en face.
Jacques-Henri.
C'est pas possible.
C'est après nous qu'on
voilà,
pardon, mais...
Là, je suis parti pour le... Et vous mettez en face Colonie Capitale et Mac Courte. On a le même trio.
Le même combo.
Ça part sur la même chose. On a un président qui dit on va aller en Ligue des Champions. Quand tu regardes l'équipe, tu dis attends, Jacques-Henri, on va se calmer. C'est peut-être pas, t'as peut-être pas l'effectif pour y aller. T'as peut-être pas le budget pour y aller non plus. Enfin, ils voient trop grand et ils se sont vus trop grands en plus à cause de leur parcours en Europa League. Qui l'année dernière, je vous le rappelle, la seule équipe valable qu'ils prennent, c'est en finale et ils se font cartonner. Voilà, pardon. Ça, c'est le côté parisien.
Voilà, j'allais le dire, mais c'est bien que vous le disiez tout seul. Mais Gilles, est-ce que le risque de cette attitude des supporters assez ultra finalement dans leur comportement, c'est pas que les Américains disent bon ben débrouillez-vous, ciao.
Ah bah pour moi ça serait une très bonne nouvelle. J'ai jamais porté dans mon cœur ni l'actionnaire américain ni le président actuel de Marseille, mais je trouve que mes collègues vont trop loin, ils nous décrivent quasiment une jacquerie du public phocéen.
Mais c'est pas autre
contre
chose,
son
Gilles.
Équipe, contre sa ville, contre eux, etc.
Mais non, vous avez vu quand même ils multiplient les signes et les banderoles et les entrées en retard dans le stade et tout ça.
Oui mais on a connu ça quand même ailleurs, c'est du mécontentement. Il y a
et
des
même
résultats
à Marseille,
sportifs.
Effectivement.
Et oui, et absolument. Et à Marseille, mais bien souvent. Mais je trouve que vous méconnaissez, je vais dans le sens d'Annie, le public marseillais qui a toujours été, entre guillemets, volcanique. C'est un public qui s'embrase dans le bon sens du terme et qui pique des colères homériques, sans doute dans le mauvais sens du terme. C'est un public qui n'est pas un public linéaire. Vous ne vous êtes pas élevé contre le même public quand à Metz, il y a eu un pétard. Vous dites, il y a une jacquerie, etc.
Pas, et bah oui, mais je constate.
Le problème, c'est pourquoi ces supporters-là vont alors balancer un pétard.
Mais
et après,
mais
viennent
y en a
crier
eu des
contre la Ligue.
Ailleurs, bien, sans que ce soit un soulèvement populaire.
Je le sais, sauf que là, ils pénalisent un club. Remarque peut-être qu'à huis clos, ils joueront mieux. Mais ça, c'est autre chose.
Le problème de fond, pour moi, c'est que Jacques-Henri Ayrault a prolongé très tôt dans la saison Rudy Garcia. Donc, du coup,
c'était
maintenant...
C'était l'année dernière.
Oui, c'était en octobre. Très tôt dans la saison, il lui a offert un contrat très avantageux. Il l'a prolongé jusqu'en 2021, ce qui est très loin pour un entraîneur. Et donc, il se prive de ce fait d'un fusible normal. C'est-à-dire que dans un club comme l'OM, avec 9 défaites en 13 matchs, normalement, l'entraîneur est viré. Mais là, il ne peut pas le faire, puisque s'il le fait... Déjà, ça coûte cher au club. Et ensuite, il se déjuge. Il reconnaît devant tout le monde qu'il s'est trompé en le prolongeant.
Oui, mais de toute façon, c'est deux fusibles d'ailleurs, peut-être.
Du coup, j'ai peur que le destin du duo est lié.
Après.
Et ils se tirent vers le bas mutuellement. Et à un moment, Mac Courte va couper les deux têtes. C'est comme ça que je vois l'issue du conflit.
Ça sera peut-être mieux alors de jouer à huis clos?
Oui, sûrement. Là, c'était de la blague. Parce
non,
que
mais ils ont déjà
moi,
joué à huis clos en Ligue Europa. C'était terrible.
C'était terrible. Non, mais pour avoir déjà vu des matchs à huis clos, c'est horrible et c'est anti-football, même quand tu prives une tribune, et encore dimanche soir on l'a eu au parc, une demi-tribune, parce qu'il y a eu des fumigènes, t'as plus d'ambiance, t'as plus rien, c'est terrible. Ce que je veux dire, il y a une chose, pour avoir discuté avec Tony Cellier, que vous connaissez bien, de France Bleu Provence, qui est un de mes proches et amis, Tony m'expliquait, il y a quelque chose qui a vraiment foutu en l'air le public marseillais, c'est pas finalement Héros, c'est pas finalement Garcia, c'est l'histoire des salaires. les salaires qui ont été mis un peu en avant.
Pâture.
Voilà, en pâture. Et alors, de savoir que les joueurs se bouffent entre eux parce que un tel touche plus que l'autre et c'est sorti sur la place publique et ça,
oui,
le
Tony,
Marseillais,
Tony était allé dans un café marseillais où les gens parlaient de ça.
Ils n'en peuvent plus et ça, ça les rend fous de se dire
qu'ils soient trop payés par rapport au résultat.
Alors que c'est des garçons qui touchent entre 100 000, 200 000 et 400 000 euros par mois et qui sont en train de regarder dans l'assiette de l'autre de savoir si un tel touche plus.
Ils se mesurent comme ça.
Voilà.
Alejandro, vous trouviez malgré tout qu'il y avait un sur le plan sportif et notamment.
En tout cas,
quand
moi,
même, Balotelli est là.
Une disproportion entre l'attitude du public qui est quand même très très négative envers l'équipe et les performances qui ne me semblent pas honteuses de l'OM.
Oui, je suis d'accord, oui. Alejandro. Ça prouve bien que le public, il n'en veut pas particulièrement aux joueurs, il en veut aux dirigeants du club.
Vous prenez le match vendredi contre Lille, l'OM passe très près d'une égalisation au moins, et finalement ils finissent par perdre.
Oui, et à Saint-Étienne la semaine précédente, ils font pas un mauvais match.
Voilà, ils font pas un mauvais match contre
les supporters,
Monaco non plus.
Ne supportent plus.
Ils en veulent au management du club et pas aux joueurs en particulier.
Moi, ce que je demande, c'est qu'on résume pas le public marseillais à un pétard. Mm-hmm. Un pétard, c'est honteux. Il faut pas. Il faut condamner. Il faut suspendre le stade.
C'est
très bien, titre conservateur. Ouais. Très bien. Il faut le faire. Il y a des règlements et c'est très dangereux. Mais le public marseillais ne vaut plus qu'un pétard.
Sûr.
Voilà. C'est le public marseillais. C'est un des meilleurs publics d'Europe, c'est un public qui
est hyper fidèle.
Mais oui, sans ce public-là, il y a pas l'OM.
Et ils sont pas qu'à Marseille, hein, les supporters ultra fidèles.
Mais
de
ce
l'OM.
Qui est génial.
Je pense à ceux de Dakar notamment.
Ce qui est génial, et tu as raison de le souligner, Gilles. Ce qui est génial, c'est que si vous avez bien regardé, écouté le match de Lille, l'entrée de Balotelli, elle veut tout dire. C'est-à-dire qu'ils ont envie de repartir. Mmh. Ils ont envie de croire. C'est une espèce de couple. Voilà. Ils ont envie de reprendre la flamme. Balotelli marque. Il fait ça comme si c'était une victoire. C'est la 90+3. T'as envie de leur dire, c'est fini, hein. Il y a 2-1. Vous avez perdu. Ouais. Mais ils sont contents.
C'est
Donc en fait,
attaquant.
Ils ont envie de repartir. C'est le fameux grand attaquant. Mais parce qu'on leur en fait, il faut pas leur faire croire aussi les choses. C'est pas avec des paperboards que tu vas avancer à Marseille, quoi.
Il nous reste 2 minutes, Bruno. Alors, on va les consacrer à votre passion, à vous. Ou en tout cas, centre d'intérêt qui est le Paris Saint-Germain. Et d'abord, un petit clin d'œil à ce qui s'est passé les dernières heures.
Tu veux m'aider à retrouver Youhou ? Oui ? Alors chante avec moi ! 1, 2, 3 ! Youhou !
Pour Paredes, je dois dire honnêtement, j'ai cherché tout le hors de douche, j'ai cherché dans le vestiaire, j'ai cherché avec, dans la salle de kiné, j'ai cherché avec les gardiens, mais il n'est pas là.
Qui peut nous dire où est passé Youhou ? Mais oui, tu as raison.
Je voulais te souhaiter la bienvenue au Paris Saint-Germain. Je te souhaite plein de succès. Tu es jeune et je sais que tu apporteras beaucoup au club et à l'équipe.
Tendrás mucho para darle a este club. Un abrazo.
Ici, c'est Paris. Paris est magique.
Voilà une petite mise en onde, hein, drôle et avec humour de Julien Maguaro pour saluer l'arrivée et la signature surtout enfin de Leandro Paredes. Il est là, l'Argentin, et salué, vous l'entendez, par Angel Di Maria. Il est là,
oui,
mais il y a quelqu'un qui est plus là. Et pour quelques mois, on le disait tout à l'heure en ouvrant cette émission, Bruno, c'est Neymar, et ça s'arrange pas pour le Paris Saint-Germain qui est vraiment à la guigne.
À la guigne, effectivement, une fissure, un trait de fissure a été repéré sur les radios, les scanners, etc., qui ont été passés par Neymar sur son pied. Donc ça recommence comme l'an dernier pour le cinquième métatarse. Donc bilan des opérations, il va rater Manchester aller-retour, il pourrait rater le quart de finale. Après, ça se joue sur deux choses. C'est où il est pris comme décision de l'opérer, et si on l'opère, c'est fini, saison terminée, et on se retrouve la saison prochaine avec Neymar, ou il joue avec sous infiltration après 2 mois de repos, de reconsolidation et donc infiltration, et cette infiltration, c'est la solution préférée de la partie brésilienne et de la Seleção, puisqu'on rappelle qu'il y a la Copa América du côté du Brésil, et c'est vraiment la solution qui serait préférée du côté brésilien. Par contre, du côté du PSG, là c'est le côté, bon écoutez, vous êtes gentils, ça nous a coûté 220 millions, donc on va lui remettre le pied d'aplomb, on va l'opérer et on se retrouve la saison prochaine. Mais en tout cas, en interne, pour avoir eu pas mal de personnes au club hier, Ils ont bien compris que c'était franchement, ça sentait vraiment pas bon pour même la fin de saison pour Neymar.
Incroyable nouvelle. Et évidemment, nous y reviendrons. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci à Julien Magoarou, à Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission et à notre stagiaire, Louis Piga. À demain.